Enfant, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai développé une sorte de passion pour les westerns. Et mes références, si vous me demandiez, c'était John Wayne, Clint Eastwood et un cow-boy français très connu, Lucky Luke. Mon amour pour le western, c'est quelque chose qui a très rapidement inquiété mon père, militant anticolonialiste, anticapitaliste, qui avait peur de l'effet de la propagande américaine sur son fils. Et il m'a toujours dit, dans les films de cow-boys et d'indiens, l'indien, c'est nous. Cette phrase m'est revenue en pleine face il y a quelques semaines, quand j'ai vu le documentaire de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, centré sur la pensée de l'écrivain américain James Baldwin. Il résume très bien cette contradiction. À partir de votre naissance, tout ce qui vous entoure est blanc. Vous imaginez l'être aussi, jusqu'à ce que ce grand choc, vers l'âge de 5, 6 ou 7 ans, vous découvrez que ce drapeau auquel vous faites allégeance comme tout le monde ne vous a pas fait allégeance à vous. Et c'est un grand choc aussi de voir Gary Cooper tuer les Indiens, et bien que vous encouragiez Gary Cooper, les Indiens c'est vous. Pour moi, cette citation, c'est une invitation à se pencher sur les rôles qui nous sont assignés dans la fiction, à quel point le cinéma de genre s'est fait un miroir des enjeux sociaux. Qui est le méchant, qui est le gentil, qui est le faire-valoir, qui perd et qui gagne à la fin du film.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Noir is the new black.
Noir
is the new black.
The new black.
Bienvenue dans Noir is the new black. Vous allez bien?
Ouais.
Aujourd'hui, on a envie de vous parler, comme je vous ai dit en intro, de la place de la vie et surtout de la mort des personnages noirs dans les films de fiction. Et pour ce faire, aujourd'hui, pour la première fois, on a un invité, Fanta. Fanta, ça va ?
Salut, ça va très bien.
Fanta, Silla, tu es critique ciné, experte en cinéma noir. Est-ce que ça te convient ?
Experte, je ne sais pas, mais je suis critique.
Et tu n'es pas que critique, tu as aussi participé en tant qu'intervenant à un séminaire qui s'appelle Cinema in Black aux États-Unis, c'est ça ?
C'est ça, je suis partie enseigner un cours de huit sessions à New York.
D'accord.
La classe.
On a lu quelque chose que tu as écrit, un papier sur Get Out, et on s'est dit, n'est-ce pas, qu'il fallait la recevoir.
Ouais, carrément.
Ouais.
On a vu tous les trois Get Out, et c'était il y a quelques mois, mais on est encore sous le choc.
You got your toothbrush?
Sure.
Do you have your cozy clothes?
Do they know I'm black?
Should they?
Donc Get Out, c'est un film qui est sorti en mai dernier en France, qui avait été un succès surprise aux États-Unis. C'est un film d'horreur, thriller, réalisé par Jordan Peele, un réalisateur noir. Et donc on avait vraiment envie d'en parler parce que ça évoque plein de trucs intéressants et ça nous a fait vraiment nous poser la question sur le noir dans le film de genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification? Donc toi, Fanta, on voudrait en parler avec toi. Est-ce que, en tant que noir, tu t'es reconnue dans le film?
Bah déjà, j'ai eu cette expérience-là aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était un gros succès. Tout le monde avait aimé. Du coup, je l'ai vu avec une salle un peu mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des blancs et il y avait des noirs. Et enfin, aux États-Unis, et je pense que au sein de la diaspora, il y a une manière de regarder des films qui est très expressive. C'est-à-dire qu'on parle à l'écran, on répond à l'écran. Donc, c'était très spécial pour moi. Et je l'ai vu principalement avec des femmes noires. Et je pense que les femmes noires, elles voient le film de manière un peu différente que les autres. Quand il est sorti, beaucoup écrivaient sur les thèmes du film, sur le fait qu'il parle d'esclavage, de relations interraciales, etc. Mais en premier lieu, c'est un film, en fait. Et c'est la découverte d'un cinéaste. Et moi, j'étais très surprise parce que Jordan Peele, c'est surtout un comédien. On le connaît comme comédien, en fait. On ne connaît pas, enfin, je ne savais pas qu'il avait comme ça des ambitions de thriller social, etc. C'était une belle surprise, c'était divertissant. Enfin, je ne sais pas si je me suis identifiée à quoi que ce soit, quoi. Non, c'était une situation assez inédite, en fait. Enfin, je n'avais jamais vu ça au cinéma, en tout cas.
Quand tu parles de situation inédite, enfin, moi, quand j'entends ça, je vois surtout que le personnage principal du film, c'est un homme noir. Dans un film donc d'horreur qui est une sorte de slasher, c'est une sorte de revenge movie, tu sais, les films où t'as plein de meurtres en série. Et d'habitude dans ce genre de film là, c'est toujours le noir qui meurt en premier, qui est une sorte de faire valoir. Or là, c'est l'exact contraire. On a une sorte de figure héroïque à rebours finalement de ça, quoi.
Get out.
Sorry man.
Get out.
Rose, we gotta go.
Is everything okay?
Rose, the keys.
I don't know where they are.
Rose!
Dans l'article que tu as écrit à propos de Get Out, tu dis que le personnage principal, Chris, c'est une final girl. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le concept de final girl ?
C'est en gros toute une théorie féministe qui s'est penchée sur le cinéma d'horreur et qui s'est dit, en fait, le cinéma d'horreur a un potentiel féministe et utopique, transgressif. Et donc, la final girl, c'est la fille qui reste à la fin.
Genre celle
qui
Sarah survit, Michelle Gellar.
Voilà, dans beaucoup de films, slasher, etc. C'est une...
ben,
dans
non, Sarah Michelle Gellar, elle meurt dans Scream.
Spoiler!
Oh là là, un spoiler d'il y a 20 ans, merci quoi, ça va.
Non mais, dans Souviens-toi, été dernier, c'est pas elle qui...
Non, elle crève aussi.
Ah, okay,
c'est
machin Griffith.
C'est Jennifer Love Hewitt.
Ah, désolée, j'étais jeune moi à l'époque.
J'étais jeune. Mais voilà, dans ce genre de film, de slasher, généralement, c'est une fille qui survit à la fin. Là, c'est le garçon noir, celui qui d'habitude meurt en premier parce que voilà, c'est un noir et que son corps n'est pas important et que voilà. Et c'est lui qui survit à la fin en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une final girl parce que c'est une manière de lier féminisme et critique raciale un peu des films.
Mais moi, j'ai une question, c'est quoi le deal avec ce truc du noir qui meurt toujours en premier dans les films d'horreur ? Parce que pourquoi, comment c'est devenu une figure qui se répand tout le temps ? Parce que même dans des films sortis récemment, il y a toujours ce truc, notamment, je pense à un film de super-héros, donc X-Men, First Class, qui est sorti en 2011.
Take off your blinders, brothers and sisters. The real enemy is out there. I feel their guns moving in the water. Their metal targeting us. Americans, Soviets, humans. Fire! A gun!
T'as les jeunes, en fait, qui découvrent tous leurs pouvoirs. Et au moment où shit hit the fan et ça y est, il y a un personnage qui meurt, le premier c'est le noir. Je me suis dit, mais attends, c'est bon, on est dans les années 2010 là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le noir il meurt encore en premier ? Et du coup, peut-être est-ce que tu peux nous éclairer sur l'origine de ça et pourquoi ça continue à...
Généralement, ces personnages, ils sont pas développés du tout, c'est-à-dire qu'ils ont pas de backstory quoi, ils ont pas de, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui sont leurs parents, on sait pas si c'est quoi leur goût, c'est quoi leur vie, s'ils ont une chambre, etc. On sait pas du tout qui sont ces gens, ils sont juste là en fait pour faire figure en fait, voilà, il y a un noir dans le film, ouais. Mais on va le dégager au début parce que, enfin, on s'en fiche quoi, c'est pas ça l'important.
Mais il y a une espèce de perversité parce qu'ils le mettent quand même là au début, tu vois. Bah, si vraiment ils s'en foutaient, ils pourraient carrément ne pas mettre de personnage.
Bah, je pense qu'ils le mettent pour des raisons de quota quoi. Il faut mettre un noir dans un film et en même temps, on n'en veut pas, il va partir. Donc en gros, on dit on va inclure quelqu'un. Mais on va dire quand même aux spectateurs, mais en fait, on ne voulait pas qu'il soit là. Donc, on va l'enlever.
Il y a une femme qui s'appelle Robin Coleman, qui a écrit, une américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Horreur Noire. Et elle explique que le personnage noir qui meurt en premier, c'est aussi une façon d'établir la férocité du monstre. C'est-à-dire que, par exemple, dans Jurassic Park, la première victime du Tyrannosaurus Rex, c'est un homme noir et c'est pour montrer que cet animal, enfin ce monstre, il est tellement badass que l'individu le plus effrayant de notre société, l'homme noir, ne pèse pas contre lui.
Il ne fait rien contre lui.
Et qu'ensuite, le héros qui va finalement triompher, qui est un homme blanc, il ne va pas triompher par sa force physique, mais en général par sa supériorité intellectuelle.
Parce qu'il est malin.
Qu'il est courageux, voilà.
Alors que dans Get Out, en fait... Enfin, la manière dont il se sort de la cave où on le met, c'est très ingénieux, ouais. En fait. Et il devient très intelligent au cours du film, alors que ça, on ne voit jamais, en fait. Justement, le noir, il meurt au début parce qu'il est bête, en fait.
Il n'a pas le temps. Ouais.
Mais alors, tu disais que toi, tu n'avais pas trop eu l'impression de te reconnaître, mais moi, je me suis vachement reconnue. Le fait de donner le bénéfice du doute quand tu fais face à du racisme, à des micro-agressions, et que tu es en société avec, et que tu es en minorité, pour le coup, numérique, tu vois, face à des blancs, et qu'on touche. Ouais. On lui fait des réflexions. Ah oui, tu es très musculaire, machin. À la fois, tu vois qu'il sent qu'il y a un truc pas normal, mais à chaque fois, il se dit, mais non, c'est moi, en fait. Je vais pas faire de scandale, je vais pas machin. Et moi, je me suis vachement reconnue dans ça, dans le côté, tu sens qu'il y a un problème, mais à la fois, t'es coincé parce que tu veux pas justement passer pour le noir qui fout la merde, ouais. ou la angry black girl. Et du coup, ouais, il y avait vraiment ce truc-là. Moi, ça m'a frappé quand j'ai regardé le film, quoi. Je trouvais ça. Et je trouvais que c'était vraiment bien parce que le film arrive à la fois aux spectateurs noirs à leur rappeler ça qui fait partie de leur expérience de vie et aux spectateurs qui sont pas noirs à comprendre ce que c'est en fait d'être noir et de se sentir comme ça en fait.
Si on veut repartir sur des exemples de choses qu'on va dire contestables ou dérangeantes dans le cinéma et la façon dont les personnages noirs peuvent être traités, il y a deux films que j'ai vus. Il y a La Nuit des Morts Vivants de George Romero de 68, qui est un classique, où le personnage principal, c'est un homme noir, qui s'appelle, l'acteur s'appelle Dwayne Jones. Et en fait, il se retrouve, il y a une sorte d'apocalypse de zombies, c'est le seul noir, il est entouré de blancs. Je résume, en gros, tout le monde meurt, sauf lui. Et le lendemain matin, il y a la garde nationale qui vient abattre les derniers zombies. Et lui, il était caché dans une petite maison abandonnée, il regarde par la fenêtre, et là, on l'abat. Fin du film. Et les images du générique, c'est en fait, on prend son corps, on le met sur une pile et ensuite on les brûle. Et ça ressemble vraiment en fait à une sorte de lynchage. Romero a dit qu'il n'y avait pas de message racial ou politique dans son film et qu'il a choisi parce que c'était le meilleur.
Est-ce que c'est pas du trolling ?
Je sais pas.
J'ai l'impression que parfois, les gens, selon la position d'où ils parlent, ils veulent voir ou ils ne veulent pas voir, en fait, d'aspect politique dans certains films, tu vois. Par exemple, là, tu dis que Romero, voilà, il n'avait pas forcément d'intention politique. Inversement, Get Out, tout le monde, en tout cas, tous les Noirs ont vu une forte subversion dans ce film.
Pas tous.
Voilà, et inversement, t'as plein de gens qui ont dit, bah non, moi, je trouve que c'est pas un... Non, pas du
ça,
tout.
Ça, c'est hyper important de le souligner.
Il y a des gens qui veulent pas voir la politique. Il y a des gens qui veulent voir le politique. Et puis, t'as des gens qui ont un sens politique mal placé. Et là, je pense aux gens qui ont vu le film et qui ont dit, mais c'est un film politique, c'est un film raciste anti-blanc, mais comment ça se fait que, comme par hasard, tous les méchants, c'est des blancs, etc. Non, mais les mecs, vous êtes jamais au bon endroit au bon moment, en fait. Enfin,
c'est vous, en fait.
Il est où votre curseur, là, enfin...
Ouais.
Il y a de ça. Moi, j'ai vu un film qui, pour le coup, n'a rien de politique, parce que c'est un énorme blockbuster, s'appelle Super 8. Je sais pas si tu l'as vu ou si vous l'avez vu.
J'ai dormi.
Spielberg.
Produit par Spielberg, réalisé par J.J. Abrams. Mais franchement, pour moi, c'est les mêmes. Enfin, c'est vraiment
son héritier. C'est un hommage à Spielberg, quoi. Un peu comme Stranger Things, en fait.
Le problème de ce film, en fait, c'est que tous les personnages noirs meurent. Mais non seulement tous les personnages noirs meurent, mais en plus, les seuls personnages qui meurent sont des noirs. Ça se passe dans une sorte de petite ville rurale des États-Unis, donc dans les années 70. Et en gros, il y a une sorte d'invasion d'extraterrestres qui a été honteusement cachée par l'État. Le FBI essaie de couvrir ses traces, ils envoient des contingents de soldats sur place.
I saw it. No one believes me.
I believe you.
Le truc qui m'avait choqué, je me rappelle, j'étais au cinéma avec un pote, et le premier noir que je vois à l'écran, c'est Samuel Jackson, en sang, qui braque un flingue sur des gamins de 10 ans, sur des gamins blancs de 10 ans. Donc déjà, ok, d'accord.
Ouais, bonjour l'imagerie.
Ouais, voilà, tu vois. Il sort son flingue parce qu'il croyait qu'il était menacé, après il baisse son flingue quand il voit que c'est des enfants. N'empêche que l'image, elle est là, elle est forte, et elle existe dans l'inconscient des gens. Et ensuite, tous les personnages noirs que je voyais, c'était des espèces de subalternes qui servaient à rien, et il y a une scène qui m'a vraiment choqué, c'est... En fait, le personnage principal, donc c'est un gamin de 10 ans, il a une sorte de médaillon, je sais pas si tu te souviens, il a un médaillon que lui a donné sa mère qui est défunte. Et en gros, le méchant général blanc l'arrête parce que les gamins en fait sont en train d'enquêter sur l'invasion extraterrestre, etc. Ils enquêtent sur l'armée. Donc le méchant général blanc l'arrête. Les soldats noirs les empoignent en mode « Ah, c'est bon, maintenant on vous tient ». Et à ce moment-là, t'as un soldat noir qui sort du rang et qui prend le médaillon du gamin. Mais genre, la scène est totalement gratuite. Le médaillon n'a strictement aucune valeur narrative. Tu ne reverras jamais le médaillon du film. Tu ne sais même pas comment le gamin récupère son médaillon.
C'est juste la méchanceté. J'interromps juste pour dire qu'on sent que t'as porté ça en toi pendant quelques temps. Et...
du coup,
ce podcast, c'est la thérapie de François.
Le mec, il prend le médaillon, il fait genre... et tu vas quand même genre, non, mon médaillon et tout. Mais ça, c'est que dalle. Enfin, bon, bref. Et le seul personnage blanc qui meurt, c'est le méchant de la fin, qui est un général blanc. Et bon, lui, comme c'est le bad guy, forcément, il crève. Mais voilà, et du coup j'étais en mode, mais il est méga raciste ce film et tout. 8 personnages qui meurent, 7 sont des noirs et le dernier c'est un blanc. Et mon pote il était, mais non, mais je vois pas du tout ce que tu racontes. Mais non,
c'est intéressant parce que J.J. Abrams, Lost, au niveau de représentation raciale, c'était assez bien en fait.
C'est
et
vrai.
C'est important pour lui en fait. Bah, même les Star Wars et tout, je pense qu'il a eu un peu une influence sur les castings.
Après, c'est peut-être le fait que c'est des hommages au film des années 80 et que dans les années 80 pour le coup il y avait toujours des stéréotypes je pense très forts.
Moi j'ai vu un exemple de film qui était problématique en 1933 et qui a été refait en 2017 et qui est toujours problématique.
Je sais ce qu'elle fait.
Qui King Kong.
Ah non.
J'ai
je
vu
que dit...
bon, premier King Kong de 33. Bon, évidemment, c'est super colonialiste. En gros, c'est des blancs américains qui veulent faire un film sur une île perdue où il y a des monstres, etc. Donc, ils y vont. Et en fait, ça se passe en Mélanésie. Donc, c'est plutôt
c'est
des papous, des... Ça se passe en Mélanésie, donc c'est des populations asiatiques noires comme des papous, des aborigènes. Et en fait, donc ils y vont pas du tout pour tourner le film. C'est des Afro-Américains tournant en Californie. Évidemment, c'est des sauvages. Il y a plein de clichés. Et j'ai revu le remake qui s'appelle Skull Island de 2017, qui est une grosse crotte. Et ça se passe encore en Asie. Donc là, ce sont pas des Afro-Américains, c'est vraiment des Asiatiques qui sont muets. Il y a une tribu d'Asiatiques qui vivent entourés par des bêtes méchantes qui les mangent et King Kong les défend et ils sont muets, ils parlent pas.
Déjà que d'habitude on dit oui, les personnages racisés n'ont pas assez de dialogue, ils ne parlent pas assez, ils sont muets dans les films. Mais genre au sens figuré, là ils sont littéralement muets.
Par contre, il y a des noirs. Là les noirs sont intégrés et ils font partie de la team des héros, ils sont visibles, ils meurent pas. Il n'y a pas de noir qui meurt.
Ah, c'est déjà ça.
Et dernier truc, le personnage féminin aussi est très transformé dans le premier King Kong. Ben en fait, le gars, il dit, il nous faut une femme. Donc il va dans un refuge de femmes, il fait, toi, femme, ça dit de faire du cinéma ? Ok, viens. Et elle vient. Et dans le remake de 2017, c'est une journaliste de guerre, parce que ça se passe dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam, et elle parle.
D'accord.
Elle a des trucs à dire.
Mais King Kong, il meurt à la fin ?
Dans la première version, oui. Dans la deuxième version, non. King Kong, c'est le gentil, en fait. Parce qu'il y a des bêtes...
C'est le spoiler, quoi.
Mais il y a des bêtes méchantes. En fait, c'est une sorte d'écosystème et King Kong les protège.
Ah, why not.
Est-ce que je peux faire un petit détour sur un genre? Je sais pas, Fanta, j'espère que tu vas adouber ce genre qui est les teen movies. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi à ce qui a vraiment compté pour moi quand j'étais jeune. Et en termes de représentation des femmes noires dans les films, ce qui m'est venu, c'était vraiment Whoopi Goldberg, quoi. Avec... Les femmes noires dans les années 80-90, en tout cas pour moi, je les voyais pas vraiment dans les films de genre type SF et tout, mais je les voyais beaucoup dans les comédies romantiques et dans les teen movies. Donc Whoopi Goldberg dans Sister Act, et j'ai aussi pensé à Whitney Houston dans Bodyguard, qui étaient pour moi deux exemples où les femmes noires, en tout cas, ne correspondaient pas au rôle que je leur voyais assigné autrement, qui était celui de sidekick, en fait, de second couteau de l'héroïne blanche. J'ai aussi pensé à The Craft, qui se rapproche peut-être plus du film de genre, pour le coup.
Je crois que je l'ai vu, c'est des adolescentes
sorcières.
C'est
quatre adolescentes, ouais. Dont une noire qui s'appelle Rochelle, ouais. Qui est victime de racisme au lycée et qui se venge des racistes en leur faisant tomber les cheveux. Enfin, il y a tout un truc autour de ça. Et j'ai lu une interview récemment où elle disait que pendant la tournée promotionnelle du film, c'était la seule des actrices à ne pas être invitée au truc de presse.
Oh
quoi.
Boy.
Et elle disait, à l'époque, je ne comprenais pas la raison. Maintenant, j'ai une petite idée.
Get out.
Et mon dernier exemple, c'est Bring It On, qui en français a été traduit par American Girls, qui est un film de pom-pom girls.
Ah oui.
C'est mon film préféré.
Mais voilà, pour moi, c'est un
Kirsten
classique.
D'accord. Parallèlement, moi, je connais pas du
alors,
tout.
Alors, c'est un classique. Hein, voilà, je tiens
le meilleur film du monde,
très fort,
d'après Jean-Luc Godard.
En gros, c'est l'histoire de donc Kirsten Dunst qui interprète la chef des pom-pom girls du lycée. Et il y a tout un truc où vraiment la discipline est pensée comme un truc sportif, une compétition, il faut être la meilleure.
Let's hear it for the five-time national cheerleading champions, the Mighty Toro!
Bang, bang, choo-choo track, let me see you do your thing!
You are cheerleaders. Cheerleaders are dancers who have gone retarded.
L'équipe de Kirsten Dunst s'aperçoit qu'en fait, elles ont volé leur chorégraphie à des filles noires, donc les Clovers, qui sont l'équipe noire locale. Et la chef des Clovers, c'est Gabrielle Union. Et il y a vraiment un moment de clash où elle lui dit « Non mais attends, tu crois vraiment que vous, les petites blanches, vous auriez pu inventer ces chorégraphies de ouf qu'on fait et tout ?» Bon, pour le coup, elles sont encore sidekicks, mais il y a vraiment un truc... À la fin, tu vois, elles payent leur respect, quoi. Les blanches, elles font « Ouais, c'est vrai, en fait, c'est vous les meilleurs. »
Ça me fait penser à cette citation de Thomas N'Gijol qui dit qu'il y en a marre des Afro-Américains qui se plaignent de mourir en premier dans les films. Il dit « En France, les Noirs, ils meurent avant le film. » Comme ça calme tout le monde.
Ils sont même pas morts dans le film, quoi.
Ouais, ils sont morts avant. Est-ce que vous pensez qu'un Get Out ou quelque chose qui s'en approche à la française, c'est possible ?
Je sais pas si on sera capable un jour de faire un film qui soit vraiment... qui parle de notre expérience en tant que Noirs français, quoi. Ça, c'est difficile, en fait, en général, de faire ça. Parce que, enfin, il y a toute une... Enfin, pas une censure, mais une sorte de contrôle social, au niveau de tout ce qui est communautarisme, etc. Et du coup, ça va venir, je pense, mais on va devoir attendre un petit peu, je pense.
I was born a free man, lived with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped, sold into slavery.
Twelve Years a Slave, c'est un film d'horreur pour moi. On n'a pas encore conscience de l'horreur de l'esclavage, nous, en France, de l'esclavage français, pour faire un film comme ça, en fait. Donc, on va faire des comédies, parce que c'est un peu plus facile de faire des comédies que de faire des films d'horreur, en fait, parce qu'on n'a pas... Je trouve qu'on n'a pas... Après, c'est peut-être pas vrai pour les Antillais, je sais pas, mais je pense que, en tout cas, en France métropolitaine, je sais pas si j'ai le droit de dire ça...
L'Hexagone.
On n'a pas conscience de l'horreur de l'esclavage pour produire des choses qui viennent de nos tripes, en fait.
Tu veux dire que même les gens qui sont concernés, même les populations antillaises, ne sont pas encore capables de faire un film comme ça pour l'instant, en France ?
Après, peut-être qu'il y a un désir de le faire, et après, c'est juste un problème de moyens.
Un problème de financement.
Oui, il y a un problème de moyens. Ouais. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a un film de fou dans sa tête, et en fait, il ne peut pas le réaliser.
Écouté un podcast de France Inter avec Lucien Jean-Baptiste, donc l'acteur antillais... bien connu maintenant, il a fait quoi ? Il a fait... Première étoile, Il a jeté des yeux, et trucs comme ça. Et justement, il parlait de cette question de la comédie et de la difficulté, en fait, d'aborder les questions raciales, le racisme, les choses comme ça, en France, autrement que par la comédie.
Et c'est pour ça que moi, j'avais bien aimé Chocolat, parce qu'en fait, Chocolat, c'est un peu une critique de ça, en fait. C'est une critique de la place des Noirs dans le cinéma. C'est un beau film sur la place d'Omar Sy, en fait, dans le cinéma français, parce qu'en gros, Omar Sy, depuis le début, on lui demande de faire le clown, et quand il fait Chocolat, il nous envoie un peu un message quand même en nous disant que c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi.
C'est très méta.
Chocolat est très méta, en fait, parce que c'est sur Omar Sy, sur les Noirs dans le cinéma français, dans le cinéma en général global, et ouais, c'est un film qui m'a fait beaucoup réfléchir, en tout cas.
La première fois qu'un blanc me fait confiance.
Qu'un clown blanc te fait confiance.
Par rapport à Omar Sy, j'étais un peu condescendante au début, et en fait, quand il a fait ce film, j'ai compris quoi, que le mec, il est un peu quand même bloqué. Ouais. Je pense qu'il a des ambitions, il a envie de faire autre chose, et il peut pas quoi.
Moi aussi, j'étais un peu comme ça. J'ai toujours eu un peu cette espèce de, comme tu dis, de condescendance, de mépris envers Omar Sy, parce que. Qu'il le veuille ou non, pour l'instant, malgré lui, il reste un peu, on va dire, le...
Noir de service.
Ouais, le noir de service.
Mais en même temps, c'est quand même une star, quoi.
Et en même temps...
Individuellement, il est pas con, il sait...
Non, mais en même temps, il y a personne qui a fait ce qu'il a fait en France.
Voilà.
Il y a jamais eu un noir qui a eu un César, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, c'est compliqué, parce qu'il est coincé, effectivement, comme tu dis, mais ce qu'il est en train de faire... Personne ne l'a fait avant. Ouais.
Il commence, j'ai l'impression, à avoir les moyens.
Si, voilà, de la liberté, l'argent. Après, ce serait bien qu'il.
Les films peuvent se monter sur lui, sur son nom.
C'est en faisant des comédies et en faisant des entrées et en acquérant du pouvoir économique, en fait, que Omar Sy a aussi justement montré aux producteurs et aux financeurs que les Noirs pouvaient faire vendre. Et donc, après Intouchable, Omar Sy a pu faire Knock. Et selon Lucien Jean-Baptiste, c'était évidemment dû au fait que le mec avait une star power maintenant suffisante. Ouais. Quoi. Et il disait, jeune réalisateur noir, jeune scénariste noir, si vous voulez justement briser en quelque sorte les barrières ou l'espèce de plafond de verre qu'il y a au-dessus de vous, faites des films qui battent des records comme Omar Sy l'a fait avec Intouchable et d'autres succès. Quoi.
Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend.
J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance.
Je trouve que c'est intéressant qu'en France, on nous taxe souvent de communautarisme. En fait, dès que t'as trois noirs dans un film, ça y est, c'est communautariste. Et... Je pense à l'exemple de Bande de filles, qui pour le coup est un film avec un casting complètement noir, mais réalisé par une blanche. Donc là, ça passe.
Alors, c'est pas faux, ça. Ouais.
Et tu vois, et je me dis, non seulement il y a le problème du communautarisme, mais il y a aussi sûrement, comme vous parliez du Saint-Jean-Baptiste, le fait que quand tu arrives et que tu cherches des financements pour faire ton film, tu vas te retrouver face à des producteurs blancs, et donc ça va être hyper compliqué de dire oui, alors voilà, je viens et mon casting, tout le monde est noir. Ouais. Et donc, on a plusieurs problèmes. Est-ce que je pense que dans une décennie, ça aura bougé ou pas ? J'ai un doute, en fait.
On a besoin aussi de peut-être penser en dehors de tout ce qui est, par exemple, CNC, etc. Moi, je pense, par exemple, à une jeune femme qui s'appelle Amandine Gay, qui a fait son documentaire qui s'appelle « Ouvrir la voie » sur des jeunes femmes noires françaises, qui va être distribuée cet automne, mais qui n'avait pas trouvé de distributeur dans les salles, etc. Enfin, elle a eu une mauvaise expérience avec le CNC. Et je me dis qu'en fait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, les web-séries, le crowdfunding, etc., peut-être que, en fait, il faudrait arrêter d'attendre que des producteurs blancs viennent vous chercher ou je sais pas quoi, et juste faites vos films. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a une vraie culture do-it-yourself qu'il faut qu'elle se crée en France. On a besoin de plus de producteurs noirs, on a besoin de réalisateurs qui font tout seuls, et on a besoin aussi beaucoup de critiques noires, en fait. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup du tout.
Il ne faut pas attendre l'autorisation, en gros, du CNC.
De personne. Sinon, il n'y a rien qui va se faire.
Si tu maîtrises les moyens de production, en fait, tu maîtrises le contenu et trucs comme ça, quoi. Ouais.
For us, by us. On va s'arrêter là. Vous avez écouté Noir is the New Black.
Noir is the New Black.
Noir
is the New Black.
On va partir en vacances. On se retrouve en septembre. Merci Fanta. Merci d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous.
Merci de m'avoir invité.
Merci François. Merci Mélanie.
De rien, écoute.
Merci pour ce moment, Kevin.
Bon été à vous sur Arte Radio. Et puis, on vous fait des gros bisous.
Salut.
Noir is the New Black. Bisous.